Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons continuer notre émission sur les vertus et les vices, c'est-à-dire sur la vie chrétienne dans le Christ. Nous avons déjà vu les vertus cardinales, c'est-à-dire les vertus humaines, les quatre autour desquelles gravite toute autre vertu, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ensuite, nous avions vu les vertus théologales, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui ont Dieu pour origine et pour objet, que nous recevons de Dieu et qui nous portent vers Dieu. Maintenant, nous allons changer un peu, ou beaucoup même, nous allons parler des sept vices capitaux. Après avoir parlé des sept vertus, nous parlerons donc des sept vices capitaux. Et tout d'abord, quelle est l'origine de cette liste que nous connaissons aujourd'hui ? Dans le Nouveau Testament, vous savez, nous avons déjà des listes des péchés, données par exemple par Jésus, quand il dit que c'est du cœur de l'homme que sortent toute méchanceté, le vol, la ruse, etc. Nous avons dans les lettres de saint Paul, par exemple, au chapitre 5 de la lettre aux Galates et d'autres passages à chaque lettre, à peu près, nous avons des listes de vices, de péchés. Ensuite, c'est au IIIe siècle qu'Origène, en père de l'Église, dans ses commentaires bibliques, va développer ces listes et les mettre en rapport avec les sept nations que Dieu doit chasser pour que les Hébreux entrent dans la terre promise. Vous vous souvenez peut-être que quand les Hébreux sortent d'Égypte et traversent le désert, avant d'entrer en terre promise, ils doivent vaincre sept nations. Donc Origène va mettre en rapport ces sept vices aux sept nations et les sept nations. Ensuite, au IVe siècle, un moine dans le désert égyptien, qui s'appelle Évagre le Pontique, va développer, le premier, l'idée des pensées mauvaises, des tendances. Elles étaient au nombre de 8, selon lui, qui nous poussent au péché et que nous sommes appelés donc à combattre. Le siècle suivant, donc nous montons de siècle en siècle, le siècle suivant, au 5e siècle, c'est Jean Cassien qui a fondé l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. Donc c'est Jean Cassien qui emporte cette idée avec lui à Marseille. Il sera le premier à introduire cette liste de 8 penchants mauvais en Occident en lui donnant les noms latins que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Au 6e siècle, donc le siècle suivant, le pape Grégoire le Grand réduit à 7 le nombre qui compose cette liste et donne le concept de vice capital. On va y revenir. Et le pape Grégoire le Grand sera vraiment le maître à penser de la morale chrétienne pendant le haut Moyen Âge. Enfin, au XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor, en moine à Paris, établit la liste que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça un peu pour l'historique, comment nous sommes arrivés à cette liste, parce qu'on pourrait se dire, elle ne se trouve pas dans la Bible telle qu'elle, où est-ce qu'on l'a trouvée. Donc pour connaître l'évolution de cette analyse, l'Église disait Saint Paul VI, le pape Saint Paul VI est experte en humanité. C'est vrai, parce qu'au fil des siècles, illuminée par l'Esprit Saint, en développant le dogme, sa doctrine, l'Église fait une analyse de plus en plus fine de l'homme, vous voyez, de plus en plus précise de l'âme humaine, de la psychologie humaine, de l'esprit humain. Essayons donc d'analyser maintenant, d'analyser chaque mot de l'expression « les sept vices capitaux » pour mieux la comprendre. Tout d'abord, le chiffre 7. Alors, ce chiffre est en relation, nous l'avons vu, avec les sept nations des livres de l'Exode, du Deutéronome, de Josué. Mais il nous permet de mettre en relation aussi ces vices avec les sept vertus déjà abordées, cardinales et théologales. Les sept dons de l'Esprit-Saint, les sept demandes de notre Père, etc. Nous savons combien dans l'Église nous aimons le chiffre 7. Au départ, la liste comprenait 8 vices, je disais tout à l'heure. Orgueil, vaine gloire, assédie, colère, tristesse, avarice, fornication et gourmandise. Petit à petit, vous comprenez, la vaine gloire a trouvé sa place à l'intérieur de l'orgueil, bien évidemment. Donc on a réduit de 8 à 7. L'assédie, qui est un mot un peu plus technique, a été traduite familièrement par paresse. Et la tristesse a cédé sa place à l'envie, tout en s'intégrant à celle-ci, et à la paresse aussi. Tout cela, nous les verrons, ne vous inquiétez pas en détail, lorsque nous aborderons chaque vice. Nous sommes arrivés donc à la liste que nous connaissons aujourd'hui. Je vous l'énonce. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. On verra dans cet ordre-là. Et on verra aussi le lien qui existe entre eux. Ils ne sont pas des vices séparés, mais ils sont en lien les uns avec les autres, comme nous avions vu pour les vertus. Donc, voilà l'explication du chiffre 7. Maintenant, vices, puisqu'on parle de 7 vices capitaux. On les appelle tantôt péchés, 7 péchés capitaux, tantôt vices, 7 vices capitaux. Sincèrement, le mot vice est à préférer, car il ne s'agit pas ici de péchés particuliers que nous commettons dans le quotidien, mais plutôt de penchants mauvais, des tendances, des mauvaises habitudes, vous savez, des faiblesses de l'âme, des faux plis. En fait, c'est l'opposé parfait de vertu. Vous souvenez-vous que les vertus sont des bonnes habitudes, des actes de prudence ou de justice ou de charité qui, pratiqués à répétition, deviennent presque spontanés ou en tout cas habituels. Voilà que pour les vices, il s'agit donc d'actions mauvaises, des péchés donc, qui commis à répétition deviennent presque spontanés ou en tout cas habituels. L'image du faux pli est très parlante ici. Ensuite, ce sont ces penchants qui nous pousseront à commettre des péchés plus ou moins graves, nous les verrons pour chaque situation particulière. Cette distinction est importante entre vices et péchés, car parfois on confond, très souvent quand on demande aux gens, même très pratiquants, parfois on confond péché capital et péché mortel. On ne sait pas trop quelle est la différence, de quoi parle-t-on. Or, ce sont des classements différents, tout simplement. Chacun des vices capitaux peut nous amener à commettre des péchés mortels ou des péchés véniels, c'est-à-dire légers. Ce sont deux choses différentes. Nous verrons en détail tout ça pour chaque vice. Bien sûr, l'expression « sept péchés capitaux » est devenue courante. Elle n'est pas fausse, on peut continuer à l'utiliser. Mais maintenant, vous comprenez qu'il faut savoir ce qu'on entend par là. En revanche, l'expression « sept vices capitaux » est moins ambiguë et parle vraiment de ces tendances mauvaises qu'on peut avoir dans le cœur. Et pourquoi « capital » pour conclure cette petite introduction? Le mot « capital » vient du latin « caput », qui veut dire « la tête ». Ce sont des vices donc qui sont à la tête, c'est-à-dire à l'origine de beaucoup d'autres. Vous vous souvenez pour les vertus cardinales qui étaient comme des charnières d'une porte, des charnières autour desquelles tournaient, gravitaient toutes les autres vertus. Ici, on utilise une autre image, celle de la tête, donc capitale, la tête, et qui est à l'origine de beaucoup d'autres vices. Ou selon l'image de Saint Grégoire le Grand, que j'estime beaucoup, ce sont des généraux en chef qui entraînent derrière chacun une armée immense. Donc les sept vices capitaux seraient les généraux en chef et chacun aurait une armée derrière lui. Cela peut nous effrayer, mais aussi nous consoler. Car si vous pensez bien, si le général en chef tombe, tout le reste disparaît. Et si la tête du monstre est tranchée, il ne peut plus nous nuire. Nous verrons aussi que chaque vice est associé à un animal, on le verra, ou plusieurs. C'est un signe de ce qu'ils nous rendent semblables aux bêtes. Nous qui sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Mes frères, quelle dégradation! Bien, mes frères, nous avons vu pour les sept vices capitaux l'image de la tête, capitale donc la tête, ou du général de l'armée. Mais nous pouvons aussi imaginer les péchés comme un arbre avec beaucoup de ramifications. Et si cet arbre a une racine, cette racine, c'est bien l'orgueil. Le français a deux mots pour les dire. Nous aborderons donc maintenant le premier vice capital, l'orgueil. Le français a deux mots pour les dire. L'orgueil est le plus courant et vient, vous savez, du francique, cette langue germanique parlée par les Francs quand ils ont envahi la Gaule romaine. Et il y a un deuxième mot, le mot « superbe », mot plutôt littéraire aujourd'hui, puisque quand on utilise le mot « superbe », aujourd'hui on pense quelque chose de positif, de très bien, d'excellent. Or, à l'origine, je vous l'ai dit, le mot « superbe » est un synonyme d'orgueil. aujourd'hui utilisée de façon plutôt littéraire, dans les psaumes, dans la Bible, dans une littérature plus spécialisée, théologique, spirituelle, qui vient directement du latin. Là, pour le coup, il n'y a pas de langue germanique au milieu, ça vient directement du latin « superbia ». Si on veut donner une définition de l'orgueil, on pourrait dire que c'est l'amour propre déréglé, une estime de soi exagérée et fausse. La vanité, en hébreu, le mot vanité, c'est un synonyme de la buée, de la fumée. La vaine gloire, une gloire qui est vaine, qui ne sert à rien. Pour cela, on parle de quelqu'un qui l'est enflé ou gonflé d'orgueil, comme un ballon, ça n'est que de l'air. Vous comprendrez pourquoi l'animal associé à l'orgueil, normalement, est le paon. Et de même que la charité est la reine et la racine de toute vertu, l'orgueil est la racine des péchés. De lui naissent tous les autres péchés, l'envie, la luxure, la colère, etc. Tout péché, pour qu'on puisse retenir une formule simple, tout péché a de l'orgueil derrière. Ensuite, pour les autres vices, nous verrons en détail la relation qu'ils entretiennent avec les uns avec les autres. Mais pour l'instant, puisqu'on est dans le premier, il nous suffit de savoir que l'orgueil se mêle toujours partout. C'est le péché originel, d'ailleurs, rappelons-nous, le péché originel aussi bien des hommes que du démon. Parce que le démon, au début de la création, a voulu se faire l'égal de Dieu. Et l'homme, ensuite, tenté par le démon, certes, dans le paradis, Adam et Ève, veulent prendre la place de Dieu, être eux-mêmes comme Dieu. Et là, c'est Saint-Michel, bien sûr, qui nous rappelle qui est comme Dieu. C'est la traduction du nom Michel, Michael, qui comme Dieu. Nous sommes, mes frères, des créatures, et Dieu est le créateur. L'humilité primordiale est d'accepter son état de créature. L'orgueil, donc, c'est le péché qui peut assumer le plus de visages différents. Il se manifeste de nombreuses façons, les plus contraires d'ailleurs. L'égoïsme, le tout à soi, l'arrogance. Mais pas seulement, parce que quand on pense à orgueil, je le crois, on pense tout de suite donc à quelqu'un qui se sent supérieur, comme je disais tout à l'heure, enflé d'orgueil, à l'arrogance. On confond parfois l'orgueil avec une de ces expressions qu'est l'arrogance. Mais pas seulement. Vous savez, un autre symptôme de l'orgueil, une timidité excessive. La rancune ou la haine, le mensonge, on ment par orgueil. On a de l'orgueil, on ne veut pas que l'autre sache la vérité, on dit des mensonges. Le mépris des autres, bien évidemment, l'autosuffisance, ça va de soi. Le murmure, quand on râle souvent, c'est de l'orgueil. Les jugements, quand on juge l'autre. Le manque de confiance en soi. Regardez comme ce sont des visages contraires. Le manque de confiance en soi. Par exemple, une peur bleue, comme on dit, d'échouer. Et cette peur d'échouer paralyse l'action ou la parole. Je ne parle pas devant les autres, je ne bouge pas, je suis paralysé par une pleur qui peut être un des fruits, un des visages de l'orgueil. Ou alors vouloir tout contrôler, tout faire pour l'estime des autres, s'ériger en centre de l'univers, vouloir toujours être le premier, ne penser qu'à son nombril, vouloir imposer sa vision des choses à tout prix, vouloir toujours avoir raison et pour cela se justifier constamment. Voyez, mes frères, les visages nombreux et si contraires de l'orgueil. C'est très typique de l'orgueil, par exemple, une alternance entre un complexe de supériorité et d'infériorité. À la fois, je dis « je suis nul, je ne sers à rien, je ne suis pas capable » et en même temps, je critique les autres qui font des choses ou les autres tout court, ou je me dis « on ne me considère pas ». Or, si ça t'inquiète tellement qu'on ne te considère pas, au fond, tu n'es pas si nul que ça. Voyez un peu donc cette alternance entre « je suis nul » et en même temps « j'aurais fait mieux que les autres ». Attention, tout de suite, il faut nuancer mes propos. Quand on parle de l'orgueilleux, ici, on ne veut pas dire forcément méchant, pas du tout. On ne met pas ici de jugement sur l'intention de la personne. Mais si vous voulez, pour moi, la façon la plus simple, la plus familière de résumer le raisonnement de l'orgueil en nous, en chacun d'entre nous, c'est le péché originel, c'est-à-dire que tout homme, quelque part, possède ce péché ou est pris par cette tendance, hein, même s'il ne le met pas en œuvre, forcément, en tout cas, il a cette tendance en lui. Donc la façon la plus facile, à mon avis, la plus simple de le résumer, c'est, je me dis, j'ai mon idée de comment l'histoire doit être, de comment les autres doivent être, de comment moi, je dois être. Et puisque ce n'est pas comme ça, puisque l'histoire est différente, puisque les autres sont autres, sont différents, et puisque moi-même, je ne suis pas comme je voudrais être, alors je suis déçu, frustré, enragé, etc., etc. J'ai peur du jugement des autres, donc d'où la timidité excessive dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai peur de donner une image qui soit objet de moquerie ou de risée ou de jugement tout court, de critique. Et donc, voilà, rappelons-nous, comme dit le Seigneur par le prophète Isaïe au chapitre 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc, quand l'histoire ne va pas comme on voudrait qu'elle aille, quand les autres sont différents de ceux qu'on avait imaginés ou qu'on avait voulu, quand nous-mêmes ne sommes pas tels qu'on avait imaginé, nous pouvons toujours nous rappeler cette phrase « Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, son projet, ses chemins sont au-dessus des nôtres ». Et cela nous amène bien sûr à changer des perspectives. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs phrases, plusieurs versets qui nous parlent de l'orgueil. Commençons par exemple par les psaumes. Au psaume 19, il est dit, délivre dans la prière du psalmiste, il est dit, délivre ton serviteur de l'orgueil, alors je serai pur d'un grand péché. Rappelons-nous que l'orgueil, c'est le péché de ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, par exemple, qui ont voulu arriver jusqu'au ciel et détrôner le Seigneur. Ou Nabucodonosor, ce roi de Babylone qui avait pris Jérusalem en captivité, qui avait amené en captivité les grands du peuple de Jérusalem, lui aussi dira le Seigneur par le prophète Isaïe, tu es monté trop en orgueil, tu as voulu être le dieu de ce monde, tu as voulu être l'empereur du monde, je te ferai abaisser, je t'abaisserai moi-même. Donc voilà, délivre ton serviteur de l'orgueil, alors je serai pur d'un grand péché. Ou dans le psaume 138, il est dit, c'est le psaume qui nous parle « En présence des anges, je chanterai, je psalmodierai pour toi ». Alors, au moment donné de ce psaume, au verset 6, il est dit « Dieu reconnaît l'orgueilleux et le regarde de loin ». Ensuite, dans le Magnificat de la Vierge Marie, où elle dit « Il disperse les hommes au cœur superbe ». Dieu disperse les hommes au cœur superbe. Il a regardé l'humiliation de sa servante, elle dit aussi. Deux autres proverbes, quelque part, dictons, qui peuvent nous aider à comprendre l'orgueil. Malheur à l'homme à qui on ne peut rien dire. Voilà, malheur à l'homme à qui on ne peut rien dire. Dans l'histoire de David, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Nabal. Nabal, image de l'insensé, image de l'orgueilleux, image de celui à qui on ne peut rien dire. Ou alors, un autre proverbe, « Corrige l'orgueilleux et il grognera ». Il grognera. Donc vraiment, c'est là qu'on peut voir l'orgueil. Parce que parfois, nous-mêmes, nous pouvons dire « Je suis pécheur, je suis orgueilleux, je suis ceci ou cela », avec beaucoup de modestie. Et ensuite, quand quelqu'un d'autre nous le dit, quand quelqu'un d'autre nous corrige, et là, à l'intérieur de nous, ça grogne précisément, ça part, on peut même devenir coléreux, on va le voir après pour la colère. Bien sûr, il faut faire là aussi tout de suite la distinction entre l'orgueil et la bonne fierté. On peut être fier de notre dignité de personne humaine, on doit l'être, d'être enfant de Dieu. Et il nous faut une saine confiance en nous-mêmes, la confiance de soi est très importante, la confiance en la miséricorde de Dieu, même si on a péché, même si on est tombé très bas, toujours faire confiance en la miséricorde de Dieu, faire son travail selon son poste, Il n'y a rien de méchant là-dedans, il n'y a rien d'orgueilleux. Alors j'ai une responsabilité, je suis directeur, je suis président, je suis responsable, je dois exercer mon travail, j'ai une autorité sur d'autres personnes, je suis prieur d'un couvent, je suis évêque, j'en sais rien. Je donne des exemples que je connais moi. Mais quand on a une responsabilité sur quelqu'un, quand on a une autorité, c'est pour l'exercer avec beaucoup de charité. Mais ce n'est pas de l'orgueil que de l'exercer tout simplement. À nouveau, l'orgueil peut se mêler partout et toujours, mais ce n'est pas nécessairement, ce ne serait pas une vraie modestie que de se dire « je suis le responsable, mais je laisse faire les autres ». Non, si tu as un poste, si quelqu'un t'a confié une charge, c'est de l'humilité aussi que de l'exercer. Donc attention à la fausse modestie. Et le démon, vous savez, il est très rusé, il attaque ton orgueil là où il sait que ça fait mal. Pour les uns, quand on a une conscience très aiguë de notre péché, de nos défauts, etc., le démon veut, son but, c'est de nous porter au désespoir, au scrupule, de se dire toujours, mais encore une fois, tu as fait ceci, tu vas changer jamais, mais regarde comme tu es, tu ne sers à rien, ça ne vaut pas la peine, etc. Il veut nous porter au désespoir. Mais pour d'autres, qui n'arrivent pas à voir leurs péchés, qui voient plutôt leurs qualités que leurs défauts, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, le démon a une autre tactique. Il veut nous porter à la présomption. Il veut nous porter à vouloir être sûr du salut sans l'aide de Dieu, sans la miséricorde. À nous dire, on n'a pas besoin de la miséricorde puisqu'on n'a jamais rien fait de si grave ou de, on n'a jamais péché, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le laxisme. Donc, entre désespoir, scrupule d'un côté, présomption et laxisme de l'autre, évidemment, vous l'aurez compris, le juste milieu, la miséricorde de Dieu qui dénonce nos péchés tout en nous assurant de sa proximité salvatrice, c'est la grande défense que nous avons contre le démon. Voilà, mes frères, nous avons décrit un peu l'orgueil, ses conséquences, ses causes, ses visages surtout. Et maintenant, on pourrait se demander quel est le remède, puisque l'orgueil est la racine de tout péché, quel est le remède à l'orgueil? Eh bien, c'est l'humilité. Les pères du désert, face au piège du démon, il y avait une fois un père du désert qui avait demandé au Seigneur de voir tous les pièges du démon, toutes les tentations qui pouvait exister. Et le Seigneur lui fait cette grâce, il ouvre ses yeux et fait voir tous les pièges tendus par le démon. Et il est vraiment dans la peur, il est très étonné, et il demande à Dieu plutôt, comment peut-on se sauver? Et Dieu lui répond, par l'humilité. Par l'humilité. Parce que mes frères, si l'orgueil est le vice du démon, l'humilité est la vertu du Fils de Dieu. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui s'est humilié dans cette kénose, comme on appelle, c'est-à-dire dans cette descente, dans cette humilité profonde. C'est lui qui a considéré les autres, c'est-à-dire toi et moi, comme supérieurs à lui. Donc considérer les autres supérieurs à soi fait partie de l'humilité. Non pas que les autres soient supérieurs à moi, mais je les considère supérieurs à moi. Je ne suis pas supérieur au Christ, mais il m'a bien considéré supérieur à lui quand il s'est fait homme, quand il est mort sur la croix pour moi, quand il a versé son sang pour me pardonner tous les péchés. C'est l'hymne des Philippiens, de la lettre aux Philippiens, chapitre 2. Sainte humilité du Christ, qui pourra te trouver ?
Alors, Père, comment peut-on acquérir cette humilité?
C'est une vaste question et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique pour tous. Et le Seigneur, si on est sincère dans notre foi, dans notre démarche de conversion, le Seigneur même s'en occupe. Mais il y a bien sûr quelques événements de la vie, quelques méthodes presque pour acquérir l'humilité. La première, je sais que ça fait trembler beaucoup, mais ce sont les humiliations, bien sûr. Les humiliations, pas forcément chercher, pas forcément des choses méchantes quand les autres nous humilient. Je ne parle pas de ça ici. Je parle des humiliations de la vie. Par exemple, être dépendant des autres. Qu'est-ce qu'on voudrait être indépendant, autonome ? Et petit à petit, on se rend compte qu'on dépend de beaucoup de monde, qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc de l'accepter, c'est déjà cette petite humiliation, ou grande pour d'autres, c'est déjà une façon d'acquérir un peu d'humilité. Ou alors d'accepter la vieillesse, que c'est difficile, que nos forces baissent, que notre vigueur n'est plus la même, qu'on ne fait plus les choses comme on faisait il y a 10 ans. De l'accepter profondément, de l'intégrer et d'être dans cet abandon filial dans les mains du Seigneur, reconnaissant de tout ce qu'il nous a donné, même si maintenant il nous enlève un petit peu ou même beaucoup, c'est aussi une humiliation de la vie qui nous aide à avoir l'humilité. La maladie, le handicap. Par exemple, quand on parle en public et on dit de belles choses et on parle bien, et puis ensuite on commence à bégayer un petit peu, vous savez, on bute sur les mots, ça sort plus comme on voulait. Et ça aussi, c'est une petite humiliation que le Seigneur permet, et ça nous amène à l'humilité, à ne pas nous gonfler d'orgueil, comme je disais au début de cette émission. L'obéissance. Évidemment, aux parents, quand on est enfant, mais aussi en supérieur, quand on est dans la vie religieuse, l'obéissance, ou même quand on est dans la vie professionnelle, nous savons très bien qu'on doit obéir à des ordres, et là aussi, c'est une leçon d'humilité. Le souvenir de ses péchés, là, il faut faire attention, parce que pour des personnes scrupuleuses qui ont des problèmes avec la miséricorde, qui n'intègrent pas la miséricorde, c'est mieux d'oublier complètement ses péchés puisque Dieu les a pardonnés. Pour d'autres, qui risquent, après le pardon, de s'enfler d'orgueil en se croyant supérieurs aux autres, un peu comme les pharisiens, vous savez, de l'Évangile. Et donc, pour d'autres, c'est important le souvenir de ses fautes passées, de ses péchés, parce que ça nous amène donc à l'humilité. Non, je dois me rappeler, je ne suis pas meilleur que lui. Quand on voit quelqu'un qui a commis des actes, disons, qu'on ne peut pas accepter, et on peut se dire, en nous rappelant, en nous souvenant de nos propres péchés, je ne suis pas meilleur que lui, vous voyez. Et la prière nous aide aussi à acquérir l'humilité. Pourquoi? Parce que la prière, tout d'abord, est un acte d'humilité en soi, en elle-même, car tu reconnais que tout seul, tu n'y arrives pas, et tu implores le secours de ton Créateur et Père. Le fait de se mettre à genoux pour prier est déjà un acte profond d'humilité. Je ne peux pas tout faire tout seul, je ne peux pas résoudre mes problèmes, donner mes réponses ou donner les réponses à quelqu'un, je ne contrôle plus rien, alors Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est toi mon Créateur et Père, moi je ne suis que la créature et le Fils, alors s'il te plaît, fais quelque chose, viens à mon secours, ne m'abandonne pas. La prière est une école d'humilité. Mes frères, il y a une phrase qui parcourt tout l'Évangile. « Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Alors, que demandons au Seigneur qu'il puisse nous délivrer de l'orgueil, comme disait le psalmiste, alors nous serons purs d'un grand péché et qu'il nous enseigne l'humilité de Christ, l'humilité de la Vierge Marie, qui peut nous ouvrir le chemin du ciel. Bonne journée à tous.